Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Merci de nous être fidèles tous les samedis au sommaire de l'émission jusqu'à 13h. Dans un instant, retour sur la semaine avec le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat. Et si notre époque était celle de la fin de l'amour? Et si l'extension illimitée du domaine du capitalisme allait jusqu'à bouleverser nos émotions, nos désirs, nos vies amoureuses? Paradoxe de la révolution sexuelle, la liberté qu'ont gagnée les femmes s'accompagnerait de l'hypersexualisation du corps féminin par la pub, la télé, le cinéma, par le culte de la jeunesse par exemple, comme si tout était fait pour rendre le corps de la femme toujours dépendant du regard des hommes. Sur les réseaux, les relations amoureuses s'exprime souvent par un pouce baissé sur les applications de rencontres, par un geste du pouce qui balaye l'écran vers la gauche. Bref, nous ne savons plus si l'amour existe vraiment ou si nous l'avons inventé. Et c'est la thèse qu'on trouve au cœur d'un livre passionnant, La fin de l'amour, essai que signe la sociologue franco-israélienne Eva Illouz. Elle est régulièrement citée par les intellectuels les plus influents au monde. Rendez-vous avec elle dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Et le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour. Bonjour.
Heureux de vous retrouver et j'ai hâte de vous entendre parler d'amour, de savoir comment vous vivez ce sentiment-là. Vous allez tout nous dire sur votre intimité. Non, je plaisante, mais c'est vrai que le livre d'Eva Illouz évoque beaucoup de choses pour chacun d'entre nous. Mais d'abord, on va revenir sur la semaine et d'abord avec ça.
C'était une erreur et on l'a reconnu, en l'occurrence une proposition de loi d'origine parlementaire qui propose de renforcer les droits des parents qui perdent leur enfant. Et là, les parlementaires, à la demande du gouvernement, qui a donné un avis défavorable à cette mesure, il faut le dire, ont voté contre parce que le gouvernement a estimé que cette mesure n'avait pas été suffisamment travaillée, qu'il fallait que ça soit la solidarité nationale qui la finance et qu'on allait la retravailler dans la navette parlementaire. C'était une erreur d'appréciation politique.
Le mea culpa que l'on vient d'entendre, c'était celui de Gabriel Attal qui était au micro de France Inter cette semaine et le secrétaire d'État qui poursuivait « Les Français attendent mieux et on va faire mieux puisque le 3 mars, on va enrichir cette proposition de loi au Sénat et donc en promettant d'aller plus loin que ce qui était prévu en cas de congé parental dans le cas d'un décès d'un enfant. Natacha, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence? Faute avouée, à moitié pardonnée?
Non, là, ce que je visualise très très clairement, ce sont des avirons, en fait.
Des avirons.
Oui, on les sort et on rame. Donc, il s'agit de nous expliquer que si on ne vote pas cet amendement, c'est parce qu'évidemment, on allait voter quelque chose de bien mieux. Et donc, ce n'était pas la peine de voter cet amendement. Je trouve ça absolument magique.
Et ça derrière, vous fait sourire.
Derrière cette séquence politique, il y a différentes choses. Bon, il y a la question de l'erreur politique et du cafouillage, du fait que le président de la République, en appelant les députés La République En Marche à faire preuve d'humanité, à finalement amplifier l'impression qu'il n'y avait pas d'humanité du côté de ses députés, ce qui est un ratage total.
Oui.
Donc il y avait cette semaine un très beau titre dans Libération, la une de Libération, attaque de boulettes géantes, qui moi m'a fait beaucoup rire tellement il était juste. Mais ce n'est pas seulement une question politique, c'est une question aussi de... Comment dire ? Il s'agit d'analyser comment on en arrive à ce que des députés ne comprennent pas ce qui est en jeu, puissent argumenter sur l'idée que cela pourrait pénaliser les entreprises. Tous n'ont pas argumenté là-dessus, mais c'est quand même assez étonnant. Et je pense qu'il y a là un mécanisme qui mêle mode de fonctionnement, culte de la performance, de l'efficacité, qui aboutit à cela et qui est absolument tragique.
Gilles ?
Oui. Il y a d'abord le contexte dans lequel cet épisode s'inscrit. Ça fait 30 ans que je suis de la vie publique, j'ai vu de nombreuses fois des semaines qui étaient des mauvaises semaines pour des gouvernements, mais une telle accumulation d'erreurs en aussi peu de temps, je dois dire que c'est totalement inédit de faire la liste des 10 derniers jours en
Qu'est-ce
soi.
Qu'est-ce que c'est la loi de Murphy ?
En soi est édifiant. Et je crois que ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est qu'il y a un nouveau registre de critiques qui est en train de monter. Il y avait jusqu'à présent une critique sur l'orientation. On pouvait croire que ce gouvernement était et de gauche et de droite. Il est de droite, on pouvait croire qu'il était espéré qu'il soit bienveillant, il est arrogant. Le nouveau registre est un registre en compétences. On pensait qu'ils étaient bons et ils sont mauvais. Et la liste des erreurs par incompétence dans les 10 derniers jours est absolument impressionnante.
C'est pour ça que Gabriel Attal parle d'erreurs
Alors après, quand on en vient,
c'est une faute,
une erreur d'anticipation. C'est intéressant de reprendre la chronologie, non pas de ce qui s'est passé depuis le vote de la loi, mais avant le vote de la proposition de loi. Elle intervient le 30 ou le 31 janvier.
Le 30 janvier.
Le 30 janvier. Le 17 janvier, vous avez une réunion interministérielle, c'est-à-dire que le gouvernement se saisit de cette proposition de loi. Le 22 janvier, vous avez une réunion en commission à l'Assemblée nationale dans laquelle déjà tout est sur la table. Donc ils n'ont pas été pris au dépourvu. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé. Deuxième erreur est une erreur de considération, de manque de considération envers le Parlement. C'est une proposition de loi, c'est-à-dire un texte dont l'origine n'est pas gouvernementale, mais parlementaire, ce qui arrive relativement rarement. C'est ce qu'on appelle une niche parlementaire qui est laissée aux différents groupes. Pour le gouvernement, c'est toujours un moment qui est un moment ennuyeux, où ils ont le sentiment de perdre du temps sur des questions secondaires. Ils n'y ont pas apporté l'importance que cela nécessitait. Et puis, la dernière erreur, Natacha l'a évoquée à sa manière, c'est un défaut, une erreur dans l'argumentation. Ils ont donné le sentiment que ce qui prévalait était les questions économiques et financières, en expliquant notamment que c'était la responsabilité de la société et pas la responsabilité des entreprises, alors qu'il y avait des arguments à faire valoir sur les faiblesses à la fois techniques, à la fois juridiques de ce texte, et qu'il était de fait possible de l'améliorer. Mais quand on lit les débats parlementaires, on voit qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé.
Ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui est le plus grave dans cette semaine noire que vit Emmanuel Macron ou que vit l'exécutif, Natacha ?
Tout dépend du point de vue qu'on adopte. C'est-à-dire que ce qui est frappant du point de vue, j'allais dire, de l'état de l'opinion, c'est cette impression, j'allais dire, d'indécence, c'est-à-dire d'incapacité à comprendre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce que sont les aspirations d'une société. Et puis, il y a la dimension, on va dire, le point de vue qui peut être celui du président de la République et de sa majorité, à savoir que cet événement, comme beaucoup d'autres avant, est révélateur d'un déséquilibre profond des institutions, d'un dysfonctionnement démocratique, dans le sens où on a de plus en plus l'impression de voir des députés totalement abandonnés à eux-mêmes, perdus, inefficaces, face à un président lui-même totalement abandonné à lui-même et obligé de gérer seul. Et il y a là quelque chose qui en fait va bien plus loin que le simple épisode et qui nous raconte que les institutions de la Ve République ne fonctionne plus de façon à permettre petit à petit de déterminer, en l'occurrence, ce qu'on pourrait vraiment appeler un bien commun.
Vous êtes d'accord avec Natacha, Gilles ?
Oui, je suis d'accord. Je pense que il ne s'agit pas d'une crise majeure, ni de cette proposition de loi, ni de la semaine, mais d'une accumulation d'erreurs qui vont avoir des conséquences, qui vont avoir des conséquences locales. On est en pleine élection municipale, les candidats sont sur les marchés. Ben, pour les candidats de La République En Marche, ce n'est pas le meilleur moment pour sortir sur le marché.
Oui.
Et qui aura, j'en prends le pari, des conséquences nationales. L'hypothèse que je fais, c'est que le groupe de La République En Marche n'aura pas seul, à la fin de ce mandat, la majorité absolue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
3 years ago, we launched the great American comeback.
Il y a 3 ans, nous avons lancé le grand retour des États-Unis. Je me tiens devant vous pour partager ces résultats incroyables. La création d'emplois explose. Les salaires augmentent, la pauvreté baisse, le crime aussi. La confiance en soi jaillit, notre pays est florissant et à nouveau hautement respecté.
C'était mardi soir et le président américain Donald Trump vantait donc le grand comeback de l'Amérique dans son discours annuel sur l'état de l'Union. On est à 9 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis et les planètes semblent étrangement s'aligner pour Donald Trump. Gilles, d'un côté, le fiasco des primaires démocrates en Iowa, de l'autre, l'acquittement de Donald Trump dans la procédure de destitution. On a l'impression que c'est comme si les jeux étaient déjà faits.
Oui, on peut avoir cette impression, ça serait une fausse impression. L'impression est forte, c'est-à-dire que d'un côté on a un Donald Trump triomphateur, le show du discours sur l'état de l'Union que l'on vient de voir. Il a été acquitté dans le procès en impeachment. Il atteint son plus haut niveau de popularité depuis qu'il est élu avec 49% d'opinion favorable. Donc d'un côté, on a un Trump triomphateur et d'un autre côté, on a des démocrates amateurs. Les erreurs qu'on évoquait sur La République en marche, là, c'est pas mal non plus du côté démocrate où il n'arrive pas même à délivrer les résultats. Mais il faut regarder, je crois, de près ce qui s'est passé dans cette première primaire, dans ce premier caucus de l'Iowa, parce que ce qui se passe là-bas, le vainqueur de l'Iowa est souvent le candidat final et que rien n'est joué au sens où Donald Trump n'a pas élargi sa base électorale, où il est vraisemblable qu'il aura contre lui une majorité d'Américains et où il n'avait gagné qu'à l'extrême marge dans les quelques États clés. Donc rien n'est joué et il faut regarder, je crois, revenir sur l'analyse de ce qui s'est passé dans cette première primaire démocrate.
Natasha Polony.
Alors, en effet, rien n'est joué et il faut toujours garder en tête que l'incertitude peut être majeure et d'autant plus avec un système électoral américain extrêmement complexe et qui n'est pas du tout le nôtre.
Non.
Simplement, ce qui est frappant, premièrement, c'est de voir à quel point tous les commentateurs qu'il y a quelques mois avaient tendance à penser que Donald Trump était fini, qu'il était tellement objectivement ridicule, objectivement fautif, notamment dans l'affaire ukrainienne, que tout cela allait finir par se voir électoralement. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et que les apparents résultats économiques de Donald Trump, la façon dont il arrive à instrumentaliser les accusations des démocrates qui sont extrêmement maladroits dans leur façon de s'y prendre, tout cela finalement le renforce malgré certaines insuffisances majeures, par exemple le fait qu'il n'a pas réussi, contrairement à ce qu'il prétendait, à réindustrialiser, à rééquilibrer la balance commerciale. Donc il y a beaucoup de choses à lui reprocher, mais ça ne se voit pas. Pourquoi ? Parce que les démocrates en face sont dans une situation qui est une situation très paradoxale. Le fait que ce soit Bernie Sanders et Pete
Buttigieg,
oui, j'ai appris en écoutant France Inter comment on prononçait le nom, parce que sinon j'aurais été incapable de le prononcer correctement. Eh bien, soit en fait, j'allais dire presque aux antipodes au sein du Parti démocrate, nous raconte une division majeure. On a d'un côté un candidat sur un programme économique socialiste avec des propositions qui vont extrêmement loin, de l'autre un candidat qui incarne la version sociétale et plus libérale du Parti démocrate.
Plus centriste, pour le dire rapidement.
Exactement. Et donc, la question est de savoir qui peut rassembler une part majoritaire du peuple américain pour battre Donald Trump, et pour l'instant, la réponse n'existe pas.
Gilles, ouais. Le Parti démocrate a perdu une élection qu'il pensait imperdable contre Donald Trump. Et donc, il est en pleine recomposition, en pleine refondation, mais il n'est pas à l'agonie. Pas du tout. C'est un parti qui est en plein débat, avec beaucoup de mobilisation, beaucoup d'idées, et avec des orientations qui sont des orientations qui sont différentes. Je crois que la première leçon de ce premier caucus, c'est pas sur les vainqueurs, c'est sur le vaincu. Le premier vaincu, c'est Joe Biden, qui était le favori.
L'ancien vice-président de Barack Obama. Le favori sur le papier de la prochaine présidentielle.
Qui était le favori de la prochaine primaire et qui arrive quatrième avec un mauvais score, et ce qui va renforcer ses difficultés à lever des fonds, qui est un élément absolument déterminant. Il n'est pas mort, notamment parce que l'électorat noir peut être encore derrière lui, il pèse beaucoup dans les primaires, mais c'est un échec très rude. Après, le deuxième enseignement, c'est la victoire, c'est un score qui est un score moyen pour Bernie Sanders. Il arrive en tête du vote populaire, mais il est battu d'un cheveu dans le vote des délégués, qui est le seul qui compte. Et puis, c'est surtout un moment excellent pour l'inconnu, la surprise.
Pete Buttigieg est donc qui est l'objet de moquerie de la part de Donald Trump, qui s'est largement moqué de son nom de famille.
Oui, Donald Trump se moque de tous ses adversaires,
oui.
et il a le don de trouver les formules les plus blessantes. C'est un candidat. Une des questions que se posent les démocrates depuis des mois est qui peut être le candidat modéré face à Donald Trump. Il y a la voix plus radicale qui peut être Bernie Sanders ou Elizabeth Warren. Qui peut être le candidat modéré ? On pensait celui qui était le favori était Joe Biden. Il est en difficulté. Et si ce candidat était Pete Buttigieg. C'est ça qui ressort, mais il n'est pas si modéré que ça, et c'est le point sur lequel je voudrais finir.
D'un mot,
il n'est pas si modéré. Il est modéré sur les questions fiscales, beaucoup moins redistributives que ne le sont Warren et Sanders. En revanche, sur les questions sociales, sur la sécurité sociale, il va beaucoup plus loin que ne le vont traditionnellement les démocrates en promettant la sécurité sociale pour tous ceux qui le veulent, et il est très radical sur les questions institutionnelles en proposant notamment de mettre fin à ce collège électoral qui, pour nous Français, est une anomalie, et cette situation dans laquelle on peut être élu en étant minoritaire.
Natacha, d'un mot, pour conclure sur le chapitre américain, il y a la question aussi de l'homosexualité assumée de Pete Buttigieg, dont certains pensent qu'elle pourrait lui poser problème au moment du vote, notamment dans le sud des États-Unis, et c'est une vraie question.
Oui, à ceci près que ceux à qui cela poserait véritablement problème sont a priori plus déjà et d'emblée des électeurs de Donald Trump. Donc il est très difficile pour l'instant de mesurer réellement l'impact de cette donnée-là, parce que ça peut aussi être au contraire une façon pour le Parti démocrate de jouer cette ouverture aux nouvelles formes sociétales. Simplement, la seule leçon que nous devons en tirer, c'est que nous, en observant cela, il va falloir que nous ne recommencions pas les erreurs de la précédente présidentielle américaine, c'est-à-dire de tous les commentateurs prendre nos désirs pour des réalités.
Gilles.
Je ne sais pas si son problème face aux électeurs peut être d'être homosexuel. Son vrai problème aujourd'hui pour les primaires, c'est de réussir à conquérir l'électorat noir.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.